Le 6 octobre 2010, Kevin Systrom et Mike Krieger, dont j'ignorais le nom jusqu'à ce jour, Marie Sorbier, créent un nouveau réseau social basé sur le partage de photos. La nouveauté, l'application conçue pour smartphone proposait des fils pour doper la luminosité, les contrastes, les couleurs, la photo parfaite, le style Polaroids à portée de clic.
Oui, et le succès fut immédiat. Alors aujourd'hui, Instagram revendique plus d'un milliard d'utilisateurs. Et pour mieux appréhender ce que cette exposition de soi a changé dans notre relation au réel, nous sommes ce soir avec André Günther. Vous êtes historien en culture visuelle, spécialiste de l'histoire de la photographie. Alors pourriez-vous nous dire ce que les sociologues entendent par le pouvoir des images ?
La question du pouvoir des images, finalement, c'est un peu une sorte d'écran pour éviter, oui, finalement, de regarder d'un peu plus près ce qui se passe et qui est beaucoup plus diversifié. Voilà. Donc il y a des performances ou des effectivités des images, comme d'ailleurs de n'importe quel message, mais elles sont liées à des contextes de façon beaucoup plus précise. Et finalement, ce qui est beaucoup plus intéressant dans ce cadre, c'est de faire le lien avec les messages écrits, avec les textes ou avec les messages verbaux. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de points communs avec les images que de différences.
Mais en quoi l'image peut agir sur celui qui la regarde ?
Ça dépend du contexte, mais on va dire que, par exemple, l'image a une caractéristique qui existe de façon différente dans les messages verbaux, c'est la figuration, hein, c'est-à-dire le fait de proposer une sorte de décor, de scénographie, avec tous les détails, l'habillement, voilà, un ensemble de choses qui, si vous lisez, disons, un roman, hein, voilà, quand vous lisez Eugénie Grandet, c'est vous qui êtes obligé de vous imaginer comment Eugénie Grandet est habillée. Quand vous avez une image, l'image vous dit comment elle est habillée. Voilà, ça c'est effectivement un élément, si vous voulez, de description supplémentaire qui fait la force de l'image, parce que bien sûr, avec cette mise en scène des événements, des actions ou des personnages, eh bien on est emporté. Hein. C'est déjà, si vous voulez, comme une sorte de film, même avant le cinéma.
Pour le dire de façon un peu vulgarisée, est-ce que finalement notre cerveau a plus de facilité à recevoir les images qu'un texte écrit ?
Plus de facilité, c'est plus immédiat. Maintenant, le problème, c'est que l'information dans l'image, elle n'est pas organisée, elle n'est pas structurée. Dans une phrase, vous avez un sujet, un verbe, un complément, l'information est organisée. Donc il y a une hiérarchie qui fait que le message est beaucoup plus facile à comprendre. Le problème de l'image, c'est que l'interprétation est libre, si vous voulez. Donc on va être obligé de céder de tout un tas d'informations, la légende, le contexte, ou bien on va faire ce qui arrive souvent avec les images et qu'on voit aujourd'hui beaucoup sur Internet, ce sont des projections. C'est-à-dire que vous allez projeter dans l'image un stéréotype, quelque chose qui vous est familier et que vous pensez reconnaître. Et c'est comme ça que beaucoup d'images, y compris d'images de presse, sont lues et apparemment décodées parce qu'elles correspondent finalement bien à un stéréotype visuel.
Alors justement, on parle d'Instagram aujourd'hui, c'est un réseau social, donc c'est un outil de communication. Mais peut-on dire aussi qu'il est ou qu'il devient un outil de domination ? Puisque quand on prend une image, le photographe choisit bien sûr son cadre et son angle.
Alors la question de la domination, si vous voulez, je dirais qu'elle dépend de la réception, c'est-à-dire du discours qu'on peut construire sur l'image. Encore une fois, l'image en tant que telle, elle est presque démunie parce que il faut lui ajouter un discours pour qu'elle commence à signifier. Il faut lui ajouter une grille de lecture, sinon son information est éparpillée et ne fait pas sens. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire a priori qu'un réseau social comme Instagram impose quelque chose. Hein, c'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, oui, s'il y a des discours sur les images, alors on va pouvoir créer des hiérarchies et, le cas échéant, des instances de domination. C'est ce qui s'est passé exactement avec la panique du selfie, qui est non pas tant un problème d'image qu'un discours sur les images et, en l'occurrence, une critique du narcissisme et de l'autoreprésentation.
Alors Instagram, on le dit souvent, ça permet une diffusion facile, planétaire, de notre café du matin ou du dernier spectacle qu'on a vu. Les concerts ont étalé, on dessine forcément un portrait idéalisé de nos vies quotidiennes et je plaide coupable aussi. Marie Sorbier.
Oui, et on peut en effet se dévoiler sous les lumières les plus favorables, ou en tout cas sous les lumières qu'on choisit. Alors André Günther, est-ce que l'usage des filtres, cette facilité à enjoliver le réel, a modifié notre vision de ce qui nous entoure ?
La question des filtres est une question un peu technique parce qu'il faut se rappeler justement l'origine de ces applications il y a 10 ans maintenant, qui s'effectue à un moment où il n'y a pas de façon simple de, en particulier, de transmettre des images sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, qui existe déjà, mais finalement on fait ça surtout à partir d'un ordinateur. Et les smartphones qui existent aussi et qui ont des fonctions de prise de vue, si vous voulez, les deux univers ne sont pas connectés ou pas bien connectés. Il faut faire toute une série d'opérations pour télécharger une image de son smartphone sur Facebook. Et c'est ça le grand succès des applications qui apparaissent en 2010, qui s'appellent Instamatic, Instagram, et qui vont proposer en plus, mais ce sont à l'époque des gadgets, hein, c'est-à-dire c'est vraiment pas quelque chose qui, c'est pas encore le réseau social qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est Instamatic qui lance l'idée des filtres, parce que Instamatic est une application inspirée de la lomographie, du Holga, c'est-à-dire d'une photographie alternative un peu bricolée, puisque tout ce que propose Instamatic existe déjà dans le réel photographique et dans, en particulier dans une photographie, disons, d'amateur expert, avec effectivement des options esthétiques qui sont typiques de la lomographie. Et c'est cet univers créatif qu'Instamatic essaye de reconstituer en ligne, et ça a beaucoup de succès puisque Instagram va effectivement reprendre cette fonction des filtres. Mais au fond, si vous voulez, ça, ce sont des caractéristiques techniques, c'est plaisant, ça a une efficacité, disons, relative, mais je pense que ce qui fait finalement le ressort fondamental d'Instagram et son succès, ça n'est pas ces petites propriétés techniques, c'est plutôt le fait que, après son rachat en 2012 par Facebook, Instagram va inviter un certain nombre de personnalités, de stars, de jeunes vedettes de la chanson ou du cinéma à s'inscrire sur la plateforme et à communiquer, c'est-à-dire à faire leur autopromotion en ligne. Et c'est cette arrivée de jeunes stars qui se mettent à utiliser le réseau qui va effectivement faire le succès d'Instagram en 2013 et en 2014. Donc, vous voyez, c'est plutôt une explication sociale qu'une explication technique qu'il faut, à mon avis, apporter.
Je ne sais pas si vous avez vu cette information-là, mais le réseau des chirurgiens esthétiques disent qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui arrivent dans leur cabinet en disant qu'en fait, ils veulent ressembler à l'image d'eux-mêmes filtrée, j'allais dire, ou transformée. Alors, est-ce que vous avez quand même l'impression que cette utilisation massive de ce réseau va modifier nos comportements de façon durable ?
Alors, la question du portrait et de l'autoportrait, il faut bien voir qu'elle existe déjà depuis très longtemps, depuis la Renaissance en peinture. Et que la peinture, si vous voulez, c'est une version filtrée de nous-mêmes. Ça n'est pas une représentation documentaire exacte qui reproduit chaque pli, chaque couture. Le travail du peintre, le travail du portraitiste en peinture, et il y a des textes là-dessus formidables, hein, explique que il s'agit bien sûr d'idéaliser, de donner une version, une meilleure version de soi-même dans l'image que dans la réalité. C'est d'ailleurs pour cette raison que, à l'arrivée de la photographie au milieu du 19e siècle, on va se trouver face à un problème qui est que on trouve la photographie trop dure, trop exacte, elle restitue une image trop précise de l'individu et il va falloir essayer d'atténuer, d'adoucir cette image. Ça va être par exemple le travail du pictorialisme qui réintègre dans la photographie un certain nombre de pratiques de peinture. Mais donc vous voyez qu'autour du portrait, finalement, la question de l'idéalisation, elle est permanente et elle existe probablement depuis qu'il y a des portraits.
Donc du portrait peint au selfie, nous sommes dans une continuité de l'histoire de l'art. Merci André Günther.